Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM, vous êtes bien sur le 97.1 où nous retrouvons notre programme dédié aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains pour la 10e et pour la 6e circonscription de l'Isère. Voilà, nous sommes dans le Nord-Isère et en particulier cette fois dans la 10e circonscription avec M. Frédéric Espinoza et Mme Gisèle Lecomte qui sont les candidats d'Europe Écologie Les Verts pour cette 10e circonscription. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Alors, comme pour tous les autres candidats, en guise de bienvenue, et puis parce que l'émission est là pour non pas tant pour être polémique que pour vous faire connaître aux auditeurs et donc aux électeurs de ces 11 et 18 juin, j'ai envie de vous faire commencer par vous présenter, faire un petit portrait de vous. Donc, Monsieur Espinoza, d'où venez-vous ?
Donc, je suis de Bourgoin. Je suis ouvrier intérimaire, en ce moment plus intérimaire qu'ouvrier. Donc, j'ai un petit peu de temps pour coller les affiches. Membre d'Europe Écologie et Verts depuis de nombreuses années, j'y suis venu en fait avec les questions de gestion d'ordures ménagères et la construction de l'incinérateur d'ordures ménagères en particulier, depuis donc quelques années. Et puis, donc candidat avec Gisèle cette année, avec le soutien donc et à l'appel d'Europe Écologie et Verts.
Et militant donc au sein de ELV depuis combien de temps ?
Une quinzaine d'années.
Et avant, un parcours politique, non ? C'est...
Plutôt non.
Plutôt pas, d'accord. Et vous, Madame Gisèle Lecomte, donc vous êtes la suppléante de Monsieur Frédéric Espinoza pour cette élection.
Exact, oui. Alors moi, je suis de Bourgoin-Jallieu aussi. Je suis retraitée. Je suis avec les Verts depuis très peu de temps, puisque ça date de quelques mois, voilà. En fait, j'ai un parcours déjà associatif. J'ai un parcours aussi syndical. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais fait plein de bêtises et qu'il fallait faire attention à la planète. Et donc, je me suis ralliée à Europe Écologie Les Verts en espérant qu'il n'est pas trop tard.
Dans quel sens vous aviez fait plein de bêtises ?
Par exemple, je fume. J'ai mangé des trucs bizarres. Genre McDo.
On ne peut pas fumer bio ?
Ah,
non, si. On n'a pas le droit de faire de la publicité pour ça.
Oui, on doit faire.
Donc voilà. Donc merci en tout cas pour ces présentations. Donc deux militants écologistes purement militants en tout cas, plus que politiciens, d'après ce qu'on peut en comprendre. Alors quand même, on va aborder la politique politicienne, comme on dit, la politique aérie, je crois, il y a dans le dictionnaire. Non, en ce moment, il est très difficile de comprendre le contexte, ce qui se passe depuis les élections présidentielles. Alors, la victoire d'Emmanuel Macron, on l'a bien comprise. Par contre, ce qui se passe autour, c'est un petit peu compliqué. Tous les partis semblent presque imploser. Et puis, peut-être que chez Europe Écologie Les Verts, vous avez commencé peut-être même un petit peu avant les autres. En anticipant. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter aujourd'hui comment ça se passe et est-ce que vous avez une vraie espérance dans ces législatives pour votre parti ?
Moi, je pense qu'il faut toujours espérer, puis il faut se faire connaître. Il n'y a que ça. C'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose, la petite goutte d'eau, et puis on arrivera bien à faire un fleuve et à entraîner tout le monde.
C'est le colibri qui porte la goutte d'eau.
C'est le colibri ?
En principe.
Oui, mais il vole loin, le colibri.
Pour répondre à votre question, Thierry, en fait, nous considérons qu'il y a besoin d'être présent, premièrement, qu'il y a effectivement un gros remembrement politique qui est en train de se dérouler depuis plusieurs mois déjà. Pour ce qui concerne le fonctionnement même d'Europe Écologie Les Verts, nos purges, c'est du passé. Ceux qui ont voulu aller à la soupe sont partis à la soupe ou à la gamelle. Ceux qui ont voulu rallier d'autres candidats pour la présidentielle sont partis vers d'autres candidats. À tort ou à raison, ça c'est l'avenir qui le dira. Et du coup, c'est pour ça en fait que le groupe des militants d'Europe Écologie Les Verts en Nord-Isère a plutôt opté en fait pour des candidatures autonomes, c'est même si ça a fait l'objet de longs débats, pour pouvoir justement porter une voix un petit peu alternative pendant le débat sur les législatives.
D'accord, c'est à tout prix faire en sorte que le message écologique soit encore entendu.
En tout cas, qu'une voix supplémentaire puisse apparaître, quoi.
D'accord. Et vous pensez que Europe Écologie Les Verts va réussir à se reconstruire après, après cette année.
Europe Écologie Les Verts est loin d'être détruit.
Ah oui, non, tout à fait. Mais en même temps, bon, il y a eu des dissensions, comme vous venez de le dire, il y a eu des départs.
Oui, c'est ça, et je crois en fait que c'est la vie de tout organisme social, que ce soit une entreprise, une association, ou même un ensemble de personnes. C'est la vie humaine qui fait que autour d'un projet, on se retrouve pendant un temps, et puis après, quand le projet évolue, il y a des évolutions d'équipe, tout simplement. Je crois que ça fait partie de la vie sociale, tout bêtement.
Très bien. Ben, merci pour cette réponse courageuse, de toute façon. Et allons justement dans le fond, un petit peu plus dans le fond des choses. On va rester sur la thématique écologique tout de suite parce que voilà, on vous l'expliquait avant l'entretien, c'est une thématique qui nous tient à cœur dans cette radio. Qu'est-ce qui vous paraît les urgences les plus nécessaires aujourd'hui sur l'environnement, sur l'écologie?
Je te laisse éventuellement.
L'eau.
Il y a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi répondre, mais c'est l'eau pour
vous. Oui.
Expliquez, développez un petit peu pour l'eau.
Que l'eau profite à tout le monde, qu'elle n'enrichisse pas qu'une seule grosse multinationale, et puis que l'argent récolté, enfin ce qu'on donne pour payer l'eau, n'aille pas qu'à un certain groupe de personnes. Mmh. Voilà. Qui a un partage.
Il y a eu des démarches en local par rapport à tout ça.
Je crois, oui, Fred.
Mm. Oui, effectivement. C'était un très très beau succès de tous nos partenaires de gauche et de centre droit, puisqu'il y avait eu notamment il y a quelques mois cet automne une très belle réunion publique autour de l'eau comme bien public, où était présent en fait tout un assez large panel de l'échiquier politique local. Donc ça allait de l'ancien maire de Villefontaine à une militante PC, à un maire communiste de la CAPI. Donc c'était un très très beau rassemblement d'énergie. Et en plus, ça semble avoir abouti à quelques décisions importantes au niveau de la CAPI pour aller dans le sens d'une régie.
Voilà, donc le retour à la gestion publique de l'eau plutôt que de donner la gestion à des entreprises privées qui se servent de ces compagnies pour faire de l'argent à partir de l'eau que vous considérez comme un bien commun. C'est bien ça. Alors, l'écologie, ça n'est pas que ça. On va peut-être se baser. Alors, on sait que les législatives sont des élections aux enjeux nationaux. Néanmoins, on est quand même dans un territoire. On va pouvoir se baser ici. L'écologie, sur le Nord-Isère, c'est des tas de choses. Ce sont des alertes aux pollutions à répétition. On est dans l'agglomération lyonnaise pratiquement, qui viennent notamment de là. Ce sont des thématiques urbaines qui se mêlent avec des thématiques rurales. Est-ce que c'est facile de penser l'écologie à l'échelle d'un territoire comme celui-ci?
En fait, non. Dans les définitions, on pourrait dire que c'est hyper facile et hyper chaud. Hyper facile dans le sens où que nous habitions au cœur de Bourgoin-Jallieu ou à côté d'une usine à Chimilin, en tant que résident du Nord-Isère, enfin, ou du Bas-Dauphiné, enfin, résident du coin, quoi, tout le monde a envie de vivre bien, c'est-à-dire d'avoir accès à une alimentation de qualité, à pouvoir se déplacer quand il veut pour aller soit au taf, soit pour aller au Cinoche, soit pour faire 2-3 courses, et avoir en fait une bonne vie. Donc ça, c'est la donnée de base et c'est facile, rechercher une bonne vie. Et par contre, ce qui est plus difficile, c'est justement faire les choix ou proposer des choix quand on est obligé d'arbitrer. Et on touche du doigt, en fait, justement avec les contraintes financières qui pèsent sur le budget des collectivités ou des États ou des ménages. On touche du doigt, en fait, les fragilités de notre système. Et c'est ça, je crois, une des plus grandes difficultés. C'est justement comment arriver à amener un accord ou un consensus entre la plus grande partie de la population pour définir quelles sont les bonnes priorités à l'avenir. C'est ça le côté difficile.
Et alors justement, bah dans un territoire, on est là à Bourgoin, en même temps, en habitant en Bourgoin aujourd'hui dans cette société, on a besoin de ce couloir qui nous mène à Lyon, parce que c'est finalement le développement économique de toute cette agglomération, et puis ça va dans ce sens, et puis en même temps, on a besoin de tous ces territoires ruraux autour, et de les préserver, et de, voilà, où dans un autre sens, on peut voir, il y a des choix parfois un petit peu compliqués à faire, comme à Roibon par exemple, etc., sur le Center Park. Est-ce qu'on doit favoriser le développement économique? Est-ce qu'on doit favoriser la protection écologique? Voilà.
Moi, je pense que c'est un développement économique un petit peu à bout de souffle. L'achat à tout prix, faire construire des magasins, il y en a plein. Et il n'y a personne dedans. Il y a plein de bureaux aussi où il n'y a personne dedans. Enfin, je pense qu'on est arrivé là un petit peu... Moi, je pense qu'on est un peu au bout. Et que ça va pas créer... Bah, peut-être créer des emplois, peut-être pendant un petit moment. Mais après, ça va faire comme partout. C'est-à-dire que nous, dans nos villes, on voit bien, les boutiques se ferment. Les gens se retrouvent au chômage. Je pense pas que ça crée vraiment de l'emploi à long terme.
Le développement espéré, oui.
Oui.
Bah, ça permet d'afficher des super panneaux publicitaires, quoi, quand on est à l'entrée de la Verpillière et de Villefond, et qu'on voit 500, 700, 1000 emplois annoncés par une nouvelle structure commerciale. C'est vrai que c'est appétissant pour les élus, c'est appétissant aussi pour tout le monde, en se disant « ouais, ça y est, il va y avoir enfin du taf ». Mais à quel prix ? C'est la question, en fait, qui nous semble important de se poser. À quel prix, sachant que par ailleurs, en cherchant un petit peu, ben, vous apercevez que par endroit, vous avez des friches industrielles qui restent là donc, depuis des années, vous avez des friches commerciales, comme à l'entrée de Morin-Jalieu, qui restent là depuis des années, ou même des friches universitaires. N'oubliez pas l'IUT de l'île d'Abo. Et du coup, il nous paraît important de... En dépit de ces gros défis à relever qui sont liés à l'emploi, qui sont liés à la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la facilité de mobilité, pour relever ces défis, et là je perds le fil de ma pensée, c'est important en fait de mettre le maximum de personnes autour de la table, et justement pour... C'est ça un de nos défis, arriver à aboutir à de nouveaux consensus sur des solutions à trouver. Et sans avoir à prélever du foncier, à impacter encore les terres agricoles ou des choses comme ça. Et c'est l'équilibre à délai qui a trouvé justement dans une zone où, comme vous le disiez, nous sommes dans l'agglomération de Lyon et de Chambéry pour la partie à l'est de la 10e. Et nous sommes dans un fonctionnement en fait d'économie résidentielle quelque part. On a passé le cap de l'industrialisation, on se souvient de la révolte des Canuts qui a amené les grands patrons à installer leur tissage en Nord-Isère, par exemple. Ça, effectivement, c'est l'histoire économique passée industrielle du Nord-Isère. Et en s'appuyant sur les savoir-faire d'aujourd'hui, c'est-à-dire je sais bâtir, mais je sais aussi aménager correctement, enfin, quand nous sommes des élus, quoi. S'il y a des... Oui, il y en a quelques-uns qui font un super boulot. Sans être obligatoirement dans la course permanente à ma dizaine de nouvelles villas, ma nouvelle rocade, etc., etc., qui consomment effectivement des terres qui, à terme, pourront devenir précieuses.
D'accord, donc penser l'aménagement et le développement du territoire de manière beaucoup plus durable.
En tout cas, plus sobre, peut-être.
Et moins au profit.
Ouais, moins dans les logiques du profit.
Voilà.
Et ben justement, les logiques du profit. J'ai envie de parler économie avec vous. Et puis comme l'actualité fait qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler d'Europe, on va commencer par votre vision de l'Europe aujourd'hui. Voilà, vous êtes, j'imagine, plutôt pro-européen, mais quid des institutions européennes si décriées aujourd'hui?
Toi, tu lances une Europe, oui, mais pas l'Europe comme elle est actuellement. Pas avec la toute-puissance européenne qui prend pas en compte la personnalité de chaque pays et qui aligne tout le monde un petit peu sur le même créneau. Enfin, si on peut dire créneau. Qui fait aussi qu'on a rallié certains pays à l'Europe sans prendre en compte leurs difficultés économiques. et que maintenant ces pays-là, ils sont en train de payer, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme le Portugal, l'Italie aussi. Bon, après, tous les pays qui sont européens rattachés, comme la Roumanie, je pense que eux, ça peut peut-être pour le moment leur apporter un plus. Mais après, s'il faut trop redonner aussi, le problème va se poser pour eux aussi de la même manière, je pense. Non ?
T'es pas d'accord, Freddy ? C'est un des regards un peu délicats à porter sur l'Europe, parce que c'est mine de rien, bah, peut-être le projet fondateur de notre millénaire, la construction européenne, la construction de l'Union européenne depuis la fin de la guerre de 39-45. Elle a ses propres dérives, comme le relevait Gisèle, et on l'a bien vu avec la grosse crise qui a affecté les pays du sud de l'Europe, et nous aussi, quelque part. Mais je crois que là, enfin, il nous semble que le I want my money back de la mère Thatcher ou la démarche de Brexit, c'est loin d'être la meilleure solution. Au cours d'un super débat organisé par le Parlement européen dans le sud de la France, j'ai pu découvrir en fait le boulot des parlementaires européens et de leurs défis. Et c'est pas le même que le boulot d'un député à l'Assemblée nationale. Ils ont à tourner entre genre les 27 capitales pour arriver à convaincre leurs partenaires politiques que telle mesure est meilleure que telle autre mesure. Et je crois en fait que il nous semble en fait important que à tous les GSL, toutes les échelles de décision politique, la voix des citoyens puisse porter de manière plus efficace. Et nous avons la chance d'avoir un Parlement européen qui est désigné pour la partie française à la proportionnelle pratiquement intégrale. Et mine de rien, il nous semble en fait que c'est un des outils justement pour démocratiser l'Europe, donner plus de pouvoir au Parlement et aux décisions, aux organisations collectives de décision. Et ça, c'est valable au Parlement européen, mais c'est tout à fait valable aussi, par exemple, pour la régie des eaux de Grenoble, où c'est les usagers, avec les techniciens et avec les élus, qui définissent la politique la plus optimale pour revenir à la question de l'eau, en termes de tarification et d'équipement.
Très bien. Alors, avec l'Europe, donc quelle est votre vision à vous de l'économie ? Alors, on entendait peut-être le développement économique est à revoir à l'aune d'autres nécessités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce que justement, le développement économique qui est prôné par la plupart des politiques, c'est pas nécessaire ou il faut le voir autrement ?
C'est nécessaire, mais il faut le voir autrement. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des prérogatives de chaque pays. Et ça nous a un peu servi, parce que ça nous a évité de signer le fameux CETA. Mmh. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu ça, je veux dire, s'il y avait été simplement la communauté européenne, cet accord passait. Et c'était la fin de l'économie européenne. On peut le dire comme ça, je pense. T'es pas d'accord ?
Si, si. C'est une question délicate, parce que nous sommes en fait depuis trois générations. Dans l'habitude en fait de rechercher en permanence le toujours plus. C'est je crois notre grand défi justement de cette candidature. On pourrait presque approcher d'une conclusion là-dessus. C'est en fait trouver un nouvel équilibre entre une économie associative et collaborative, entre un secteur public qui est important et même fondamentale, par exemple, pour l'organisation du territoire en France, et la part du privé. Et ça, en fait, d'une génération à l'autre, la part de chacun peut se modifier. Et le défi, justement, c'est de faire en sorte que cette modification, cette transition, se fasse de la manière la plus partagée possible et la plus démocratique possible. Et c'est, je crois, en fait, la raison principale de notre présence aujourd'hui.
D'accord. Alors, il nous reste 30 secondes. Vous savez que le temps est très minuté. Ici, dans cet exercice, vous avez envie de rajouter une dernière chose ?
Gisèle ?
Pensez à nos enfants, en priorité.
Voilà. Ça rappelle le titre d'un film, « Vos enfants vous accuseront ».
Oui, exactement. Ouais.
Absolument. Merci beaucoup à vous. Bonne suite.
Merci à vous.